Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
On va s'évader un tout petit peu en parlant d'espace avant de retomber durement sur Terre avec Twitter, Amazon, Apple et plein d'autres choses. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 488, nous sommes en novembre 2022. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode. Je suis très heureux également de pouvoir remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement, c'est grâce à eux qu'elle existe et je leur suis éternellement reconnaissant. Étienne Akopkan, Cyril 90, Fricazoïde, Miak Miak avec un underscore, Frédéric Noël Conseil, Nicolas Lescure sont les patriotes qui ont rejoint le Rendez-vous Tech depuis la semaine dernière. Merci à vous tous d'avoir de participer à cet effort collectif qui, j'espère, vous fait plaisir en plus maintenant d'être patriote. Je remercie également les producteurs de cet épisode, Stéphane Lioret et Aubeuf. J'espère que vous tous, vous allez apprécier un petit détour par l'espace. Je me suis dit, au départ, j'avais dans les notes de l'émission Amazon, je me suis dit non, on va parler de Twitter, on va parler de machin. On va rêver un petit peu ensemble, s'évader l'espace d'un instant avant de retourner à la dure terre ferme. Et donc, on va parler de tout ça dans un instant. Mais avant, il faut que j'accueille mes formidables invités, ceux qui vont nous accompagner pour commenter tous les sujets de cet épisode. D'abord, honneur aux anciens. Ça peut toujours être mal pris quand on arrive à un certain âge, donc, quand on dit des choses comme ça. Salut Christophe, comment vas-tu? Christophe Kamikas est avec nous. Comment vas-tu?
Écoute, ça va bien, merci. Je ne vais pas le prendre mal parce que je suis encore plus jeune que toi, je crois, donc ça va.
Merci d'être avec nous. Peut-être qu'on demandera on fera appel à ton expertise technique d'ingénieur, de développeur sur certains sujets de l'émission. J'aurais quelques questions à te poser, notamment comment se fait-il que Twitter n'ait pas encore explosé? Je suis sûr que tu auras la réponse. Tu connais parfaitement l'ingénierie de Twitter, n'est-ce pas?
Sur le bout du doigt.
Sur le bout des doigts. Très bien. On a également avec nous Otaksu, Maxime. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir ton nom complet, mais je vais le dire quand même. Maxime Lancelin Golberry, alias Otaksu. C'est comme ça qu'on te connaît. Salut Maxime, comment vas-tu?
Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Sache que tu es une des rares personnes qui prononce bien mon nom de famille sur le premier coup. Ça m'a choqué. Et ne vous inquiétez pas, on est toujours le vieux de quelqu'un. Je l'ai appris.
Écoute, oui, vu comme ça, ça me console un tout petit peu. Non, mais je me suis beaucoup entraîné. Hein. J'ai fait des sessions pour ton nom de famille très longues pour m'assurer que ça passe bien. C'est un truc auquel je tiens, en fait. Je ne sais pas exactement pourquoi, ou peut-être que si, je sais pourquoi. J'aime bien au moins mentionner les noms complets des gens. Je ne sais pas si c'est old school ou des gens qui viennent dans l'émission. Après, on peut, même dans le rendez-vous jeu, où il y a des gens qui ont il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos. J'aime bien dire le nom complet, peut-être que c'est pour prêter de manière un peu illusoire, un peu de sérieux à l'émission, genre ici, nous on parle avec des vraies personnes qui ont des vrais noms, mais du coup voilà.
J'avoue que ça marche, hein, parce que tellement l'habitude des streams ou des trucs comme ça où finalement tu ne fais que prononcer des pseudos à tort et à travers, dès qu'on sort prénom plus nom de famille, il y a un petit côté... du respect, quoi. Du gros respect.
Mais tu remarqueras que je ne vais pas aussi loin que les médias traditionnels. Genre, on en plaisante de temps en temps, notamment avec Cédric qui en vient, Cédric Ingrand. On ne se vouvoie pas et on ne se parle pas en disant le nom complet. Genre, et qu'en pensez-vous, Maxime Lancelin-Golberry, que pensez-vous de cet événement? Tu vois, là, c'est trop.
Bien écoutez, monsieur Béja, moi, ce que je peux vous dire...
Non, mais il faut dire le prénom et le nom. Là, tu vois, ça fait vraiment genre radio ou émission politique.
Quand c'est le présentateur, c'est toujours monsieur.
C'est vrai, t'as bien raison. Du coup, écoutez, on va se lancer dans les sujets du jour. Avant ça, je voudrais dire un petit mot sur l'édito que je vous promettais la semaine dernière et que j'ai publié donc en fin de semaine dernière. Un édito public, généralement, je les réserve à mes patriotes. Et là, c'était du coup un épisode spécial qui était beaucoup plus long d'ailleurs que les éditos que je fais généralement. Mais c'était un édito dans lequel je vous ai expliqué pourquoi je parle aussi de politique dans l'émission. On ne parle pas que de politique, mais je parle aussi de politique. Et je voulais faire un épisode pour expliquer ma démarche, vraiment la raison éditoriale et même peut-être philosophique pour laquelle je pense qu'il est important de parler de politique. Donc j'en ai parlé, l'essentiel tient dans les 10 premières minutes. Donc vous pouvez aller écouter ça si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé des retours sur cette sorte de petite dissertation, en me disant qu'ils appréciaient vraiment justement cette démarche, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec les opinions que j'exprime. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont fait vraiment chaud au cœur en me disant qu'ils appréciaient la démarche et qu'ils comprenaient peut-être même encore mieux les raisons pour lesquelles j'y tenais tellement. Et même si c'est des gens qui écoutaient l'émission depuis longtemps, qui l'apprécient à la base, beaucoup m'ont dit qu'ils comprenaient mon raisonnement et je pense que c'est pour ça que c'était important de le remettre à plat. Donc, si ça vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encouragerai à aller y jeter un petit coup d'oreille. C'est l'épisode qui a été publié donc, en fin de semaine dernière, le 487 du coup, qui s'intitule « Pourquoi je parle aussi de politique ?» Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'oreille. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, j'énonce l'un des préceptes fondamentaux du patrixme. Vous voyez que je garde le sérieux qui m'habite dans toutes les émissions. L'un des préceptes fondamentaux du patrixme. Donc, si vous voulez le connaître, vous pouvez aller écouter l'édito pour cette raison aussi. Écoutez, on va se lancer du coup dans l'émission avec les infos importantes. À retenir d'abord, la première info importante, comme je le disais en intro, c'est que je ne vais pas parler d'Amazon, d'Apple, tout ça. Avant de repartir sur les pérégrinations, les méandres de Twitter, je voulais parler un petit peu d'espace. Il y a deux sujets qui sont tech, hein, bien sûr, mais enfin, la tech, c'est un petit peu tout. Tout est tech, donc c'est facile. Je peux parler de ce que je veux, en fait. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Et du coup, je voulais qu'on parle un petit peu d'espace, mais il y a deux sujets qui le justifient. Le premier à avoir avec la Lune, le deuxième à avoir avec les communications et potentiellement les communications avec chiffrement quantique, mais ça, c'est une autre partie de la question. Et donc, le premier, c'est la Lune et la mission Artemis. La NASA a annoncé que d'ici normalement l'année 2030, enfin, c'est ce qu'il prévoit, on aurait une présence sur la Lune, une présence humaine sur la Lune, et qui serait du coup... alors, ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Hein. Il y a le programme Artemis, d'ailleurs, Artemis 1 vient d'être lancé avec beaucoup de retard. Et sur les 10 prochaines années, on continue le programme Artemis. Donc, programme Artemis, enfin, les fusées Artemis 2, ça sera le même vol que le 1, mais habité. Puis 3 et 4, on va aller sur la Lune. 3, c'est la première exploration de la Lune, mais 4 et 5, qui arriverait 2027-2028, on commence à poser des trucs sur la Lune et y rester. Et moi, je pense immédiatement à des séries télé comme For All Mankind. Ouais, c'est vrai, c'est à ça que ça te fait penser aussi.
Exactement pareil. La base lunaire et tout, carrément.
Donc, excellente série sur Apple TV Plus si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, ça fait rêver cette idée de commencer à aller construire une sorte de village lunaire. En fait, on a aussi... on peut se dire, ah ben enfin, un village lunaire... Entre parenthèses, ils ne sont pas très, très précis, comme je le disais, à la NASA. Ils ne disent pas qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être juste un module posé qui va rester là et dans lequel devront vivre des gens pendant une semaine et puis après, ils en prennent un autre pour repartir ou s'ils veulent vraiment établir un truc plus vaste. Mais ça a l'air d'être le début, quoi. Ils disent qu'il y aura une présence humaine, on ne sait pas combien de temps, sur la Lune, mais c'est différent de juste un voyage sur lequel ils y vont, ils se posent, ils restent quelques jours et puis ils repartent. Donc, c'est vraiment une présence à plus long terme. Et oui, comme je le disais, bah, ça fait un petit peu rêver parce que c'est un truc qu'on a fait. Enfin, les voyages vers la Lune, c'est un truc qu'on a fait, l'humanité a fait. Et ça fait bah, quelques décennies qu'on ne le fait plus. Et on pourrait se dire, bah, rester sur la Lune, c'est compliqué. Mais il y a déjà la Station Spatiale Internationale dans laquelle il y a des astronautes qui vivent pendant 6 mois, mais elle est toujours habitée. Ça doit être... Alors, c'est plus long d'y aller, mais ça doit être plus facile de vivre sur la Lune avec un minimum de gravité que dans la Station Spatiale Internationale. Donc, pourquoi pas ? Je sais pas, moi, ça me fait rêver. Est-ce que c'est quelque chose... C'est une question éternelle, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire ? Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'on a mieux à faire ici ? Bon, c'est un petit peu de la psychologie de comptoir, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu avec vous, savoir ce que vous en pensez. Puisque tu as vu For All Mankind, Christophe, tu es un expert, clairement, de ce sujet. Donc, je te pose la question à toi. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce projet de la NASA ?
Ça m'évoque déjà l'histoire, le passé, avec les missions Apollo. Et l'idée qu'on est en train de refaire un peu ça, d'un point de vue un peu plus modernisé. Et ça fait rêver, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça fait rêver, ça nous fait rêver nous, mais ça fait rêver aussi les enfants. Moi, j'ai mon fils, mon grand, qui a 13 ans. Il est passionné par l'espace. Et le fait de voir ça de grandir avec ça, ça peut créer des vocations. Et en tout cas, ça lui plaît énormément. Et il, enfin, pour l'instant, hein, il est encore jeune, mais c'est une trajectoire qu'il aimerait bien prendre pour sa carrière future. Ce que je voulais rajouter aussi derrière, c'est que en fait, on a su le faire, mais aujourd'hui, le savoir, il s'est perdu sur aller sur la Lune. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé et contribué aux missions passées sont pour la plupart à la retraite, dans le meilleur des cas. Et donc, on n'a plus vraiment ce savoir pour aller sur la Lune. Donc, il va falloir éplucher les livres, se rentraîner, faire pas mal de choses. Là où aller dans la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, quasiment. Donc, il y a quand même pas mal de boulot. C'est quand même une nouvelle aventure. Quelque part, on a des traces de ce qui s'est déjà passé, mais il va falloir réapprendre beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. L'autre truc, c'est qu'il y a le côté exploratoire, mais il n'y a pas que ça aussi. Il faut imaginer aussi que la Lune, ça peut être utile pour plein de choses. Ça peut être utile pour aller chercher des ressources. Il y a notamment pas mal d'hélium-3 sur la Lune, on en parle beaucoup, qui peut être une ressource assez intéressante à travailler pour sur Terre. Donc, il risque d'y avoir des enjeux économiques derrière. Et puis, ça peut être aussi une base de relais, une base de lancement pour l'exploration du système solaire. Plus loin, on parle de Mars ou d'autres planètes derrière. Ça peut être aussi un moyen pour faire un relais et partir plus loin, plus facilement que de s'extraire de l'attraction terrestre.
C'est clair.
Voilà globalement toutes les idées que auxquelles ça me fait penser.
C'est marrant, mon fils aussi, bon, qui est beaucoup plus jeune que le tien, on parle de l'espace et de Mars et de la Lune et tout ça. Et bien sûr, il est dans sa phase où il veut être astronaute, mais il ne veut pas aller sur Mars parce qu'il y a un gros volcan. Donc, la Lune, c'est un peu plus proche. En plus, ça prend quelques jours pour y aller et revenir. Ça va. C'est plus facile que Mars. Mais oui, d'ailleurs, on est allé regarder où sont formés les astronautes de l'Agence spatiale européenne, tout ça. Malheureusement, c'est en Allemagne, ce n'est pas en France, mais bon. Mais oui, ça peut forcément évoquer des vocations. Toi, tu es encore jeune, Otaksu. Est-ce que du coup, tu te dis, bah, peut-être que moi, je vais y aller, j'ai encore le temps, je suis dans ma prime jeunesse. Tu vas commencer à postuler pour aller sur la Lune.
J'ai pas exactement le physique qu'il me faudrait pour ça. Non, mais surtout, en fait, quand je vois ça, moi, ça me rassure plus qu'autre chose. Non pas parce que j'ai l'ambition de faire un voyage lunaire ou quoi. Pour moi, c'est plus ou moins de la lubie de milliardaire à l'heure actuelle. Mais je trouve ça rassurant de voir la NASA continuer d'évoluer, qui est quand même un service, on va dire, plutôt public. Même si à l'aune de l'Amérique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est dans la recherche où je suis le plus intéressé par cette news, dans cette idée, non seulement, comme tu le disais, Christophe, d'aller chercher les ressources, mais aussi l'exploration. Je trouve que le mission statement de la NASA est tout de même plus intéressant qu'un SpaceX qui veut faire du tourisme quelque part.
Effectivement, il y a une sorte... En même temps, on touche peut-être à autre chose dans cette volonté. D'une part, je pense que ça parle à notre âme d'explorateur. On est fondamentalement presque, comment dire, physiologiquement, par sélection naturelle, on a une envie d'explorer. Mais il y a aussi cette idée que l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Interplanétaire. pour le cas où on fait trop merder celle-là. Au moins, on a une possibilité de vivre. Il y a d'ailleurs, il y a un élément, je ne sais pas si ça vous intéresse ce genre de choses, mais vous connaissez certainement le paradoxe de Fermi, qui est que, vu l'âge de l'univers, s'il y avait des espèces spatiales, des espèces qui peuvent voyager dans l'espace, ben on devrait en avoir vu des traces, et on n'en voit pas. Alors, il y a plein de réponses possibles à ça, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on est peut-être les premiers à arriver à ce moment de l'évolution technologique où on peut peut-être envisager ce genre de choses. Et c'est marrant parce que il y a deux réactions à ça. Soit on se dit « Ah bah merde, on est tout seul, on est les premiers, il n'y a personne d'autre dans l'espace, dans tout l'univers. » Et ça nous attriste peut-être un peu. Mais d'un autre côté, si c'est effectivement le cas, on a une responsabilité presque face à l'univers. Alors c'est très anthropomorphisé notre relation à l'univers, mais c'est normal. On a la responsabilité presque d'explorer l'univers, ou au moins, au minimum, d'explorer le système solaire et puis d'essayer d'aller plus loin ensuite. Parce que si on est les seuls à ce stade, il faut qu'on répande la vie partout. Enfin, la vie intelligente, je crois. Enfin, partout, j'en sais rien, mais il faut qu'on commence. Je sais pas, moi, ça me donne plus cette idée de oh, merde, faut pas qu'on. Faut pas. S'il y a plein d'espèces intelligentes dans l'univers, bon, bah, c'est pas très grave à la limite si nous, on réussit pas à dépasser nos entraves évolutionnaires. Bon, c'est pas la fin du monde, mais enfin, c'est la fin de notre monde, mais pas la fin de l'intelligence dans l'univers. Mais si on est les seuls, bah, il faut qu'on se répande, non? Je réfléchis comme un virus, peut-être.
C'est un peu ancré dans notre ADN, effectivement, ce délire-là. Après, moi, j'ai un petit peu peur quand même des leçons de notre histoire aussi, hein, avec la colonisation, tout ça, tout ça. C'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur la question, je dois l'avouer.
Bon, déjà, disons que la première étape, ça serait la Lune, et puis peut-être Mars dans 50 ans. Pour le moment, ça va. On n'est pas encore. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Martiens à maltraiter. C'est déjà une. D'ailleurs, c'est ce qui motive, selon lui, Elon Musk, à essayer de pousser vers la conquête spatiale. C'est de s'assurer qu'on ait plusieurs humanités qui soient.
On pourra un backup plan.
Oui, c'est ça, un backup plan, exactement. Bon, toujours dans les nouvelles de l'espace, il y a Iris 2, qui est l'espace un peu plus proche. C'est l'Union européenne qui qui a annoncé le développement d'une constellation de satellites qui s'appelle Iris 2, enfin Iris au carré, qui permettrait en fait à l'Europe, à l'Union européenne, d'avoir une indépendance, une autonomie pour ce type de réseaux de communication qui donnent accès à Internet à peu près partout dans les endroits qui sont difficiles à câbler, fibrer, réseaux mobilifiés. C'est évidemment, là encore, c'est marrant parce qu'on essaye de lui échapper, mais c'est encore une réaction en partie à Elon Musk. C'est pas le seul avec Starlink qui a un réseau de ce type, mais c'est certainement le plus connu. Et l'idée est de ne pas avoir à dépendre de sociétés privées et donc d'avoir une initiative fédérale du gouvernement, enfin fédérale, si on considère que c'est vraiment une fédération, mais de l'Union européenne pour, bien sûr, l'utilisation. Alors, ce n'est pas 100% clair, mais ça serait a priori accessible, peut-être un petit peu cher pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour les administrations, l'appareil militaire et ce genre de choses. Mais en tout cas, moi je pense que comme pour le reste, le fait d'avoir un petit peu d'autonomie dans ce domaine n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça nous fait un petit peu
d'autant
moins
d'autant qu'en fait...
Oui, vas-y, Otax, pardon.
Non, j'allais juste rajouter, c'est que dans l'évolution technologique, il y a très souvent un départ de technologie qui se fait pour le militaire, le gouvernemental, et qui devient au fur et à mesure beaucoup plus grand public. Donc pour l'accessibilité d'Internet, et particulièrement, comme tu le disais, sur la variété des options, hein, quelque part, on voit un marché public se créer. Donc toujours intéressant d'avoir une alternative européenne là-dedans. Hein.
On est d'accord.
C'est l'histoire du GPS, effectivement, le développement militaire d'abord avant d'être grand public.
Ou d'Internet.
Internet aussi, c'est vrai. Ah non, c'était la recherche Internet. Ah oui.
Ouais. Ouais, il y avait une, en partie ARPANET qui était aussi militaire, ouais, mais
c'est vrai.
Mais il y a toujours effectivement, et c'est un truc qu'on peut dire sur les voyages vers la Lune aussi, au départ, il y a des velléités dans l'exploration spatiale, peut-être un peu moins, même si c'est de l'aviation, des velléités qui sont étatiques ou militaires. Et puis ensuite, un truc qu'on n'a pas évoqué, mais ça amène aussi des avancées technologiques qui servent au commun des mortels. Là où c'est intéressant avec ces constellations de satellites, c'est que ce n'était pas les gouvernements qui ont fait les premiers. On évoquait Starlink. C'est à l'état de projet, hein, donc ça va prendre des années avant que Iris 2 soit installé. Là, on est vraiment sur une initiative qui est à la base privée, et y compris pour SpaceX, l'évolution est tirée. On a vu le moteur de fusée Prométhée de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, qui est un moteur réutilisable, moins cher. Ils ont clairement été motivés par les travaux de SpaceX dans le domaine. Donc, ce qui tire, on est passé quand même dans un modèle, peut-être que ça se réinversera, dans un modèle où c'est le privé qui tire le développement et l'initiative avec le public qui suit derrière. Quoi.
Après, il faut dire que c'est le privé qui en débloque les fonds aussi. Tu parlais, Christophe, tout à l'heure du fait qu'on a perdu effectivement nos connaissances sur l'exploration spatiale, et ça c'est dû à la perte d'intérêt qu'a eu l'État sur l'exploration spatiale au moment où post-guerre froide, etc. On va pas refaire l'histoire, mais voilà, j'ai l'impression que ce réseau satellitaire, ça vient aussi de ça, du fait qu'il y a eu avec Internet notamment, mais pas que, une perte d'intérêt pour le satellitaire, et qu'un acteur privé est venu dire « Attendez, j'ai ma petite idée.
» Effectivement. Bon, écoutez, voilà pour nos news de l'espace qui nous ont fait un petit peu voyager. On avance maintenant.
Même pas du chiffrement quantique ?
Ah, mais si, bien sûr, vas-y.
Oui, justement.
C'est quantique en plus, et on va peut-être, va peut-être en parler un petit peu plus à un moment dans les semaines à venir ou les mois à venir de tout ça. Mais oui, dis-nous, il y a effectivement communication quantique aussi.
Ah, c'est une première communication qui va être chiffrée dans l'espace par du chiffrement quantique. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ça sera ultra méga sécurisé. On parle souvent de l'informatique quantique et notamment des ordinateurs quantiques qui vont bientôt pouvoir craquer tous les systèmes de chiffrement type RSA et tout ça. Là, dès le départ, ils se dotent d'un chiffrement qui, pour le coup, sera robuste pour la suite. Ça, c'est cool. Voilà, c'est pour l'aspect technologique.
Ouais, je me demande, évidemment, tout va aller vers le chiffrement quantique à terme, ou au moins résistant au quantique, parce que les ordinateurs quantiques commencent à avoir des applications pratiques. C'est intéressant, mais est-ce que ça ne sera pas commun quand le réseau Iris 2 sera enfin... Il ne donne pas de date, je crois, sur la mise en service. Ils veulent c'est un projet qui sera travaillé de 2023 à 2027. Donc d'ici 2027, les gens qui vont sérieusement chiffrer leur communication le feront pour être à l'épreuve de l'informatique des déchiffrements quantiques, je pense. Donc c'est presque...
Surtout si c'est dans le domaine militaire, évidemment. Bien sûr.
Alors après, juste une petite note pour faire un petit coup de cocorico, c'est qu'on pourrait ne pas l'imaginer, mais la France est pour le coup très très bien placée sur la recherche sur l'informatique quantique, justement. Donc on pourrait avoir une certaine avance sur ce terrain.
On en reparlera, comme je disais, dans quelques temps dans l'émission. Alors, la semaine donc de Twitter, on y vient à votre rendez-vous adoré ou détesté, je ne sais pas, on va voir ce que vous en pensez. Mais on va essayer de faire un petit peu plus rapide que d'habitude, mais il y a quand même évidemment des choses qui se sont passées et qui sont importantes pour ce soap opera qui continue de l'aventure de Twitter. J'ai divisé la semaine de Twitter en trois chapitres. Plein de drama, plein d'excitation et de cris de désespoir que je vais vous conter avant qu'on les commente. D'abord, chapitre 1, l'ultimatum. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que... Ah merci, tu fais les effets très très bien. Donc, attends, mais on le refait un petit peu plus. Chapitre 1, l'ultimatum.
Tintin.
Pas mal. Donc, la semaine dernière, Elon Musk a envoyé, après avoir renvoyé la moitié des environ 7500 employés de Twitter, il a envoyé un email aux 3000 et quelques restants en leur disant « Nous nous lançons dans le développement de Twitter 2.0, ça va être hyper hardcore, on va coder toute la journée et toute la nuit. Si vous n'êtes pas partant pour faire partie de cette aventure Twitter super hardcore, c'était même formulé différemment. Si vous êtes partant, vous devez cliquer « oui » sur ce lien d'ici à 5 heures de l'après-midi. Si vous n'êtes pas partant, eh ben vous cliquez pas et vous êtes renvoyé. Ils avaient quelques heures pour le faire et vous aurez donc vos 3 mois de severance, 3 mois de payé.
La vie.
Mais vous ne travaillez plus dans la boîte. Et il semblerait que plus d'un millier d'employés aient choisi de partir. Et du coup, il reste aujourd'hui quelque chose comme... Alors attendez, il a donné l'info. Il reste 2700 employés dans Twitter, là où il y en avait 7500 il y a 3 semaines ou 4 semaines quand il a racheté la société. À côté de ça, il a également renvoyé Robin Wheeler, qui est la chef des ventes de Twitter, alors qu'il l'avait convaincue de rester il y a une semaine. Elle est partie. Il y a, suite à ces problèmes, suite à ces licenciements, beaucoup de gens ont dit il n'y a plus vraiment assez de gens, il y a des équipes qui ont été vidées. Techniquement, Twitter ne peut pas tenir et ça va forcément créer une implosion technique. Plein d'ingénieurs sont venus expliquer en quoi des petits problèmes pouvaient provoquer des cascades de problèmes qui faisaient que Twitter allait forcément, techniquement, ne pas tenir sur les semaines à venir. On verra ce que ça donne. En plus, il y a la Coupe du Monde qui est traditionnellement un moment important pour Twitter parce que c'est une grosse activité. Donc, on verra si ça provoque des problèmes. À côté de ça, on a eu un témoignage de Yoel Roth, qui est l'ancien directeur de la sécurité et de la confiance, Trust and Safety, sur Twitter. Il a dit « La raison pour laquelle je suis parti, alors qu'il était un petit peu un défenseur, ou au moins la voix d'Elon Musk au début, au début, juste après son rachat, il a dit « Le problème, c'est que Elon Musk veut tout décider lui-même, y compris sur la modération ». Et du coup, on n'a pas besoin d'un rôle comme le mien. Il n'y a pas de trust and safety. Il n'y a que la voix d'Elon Musk qui compte. Et du coup, ça ne sert à rien que j'y reste. On était surpris de le voir partir la semaine dernière. Ça m'amène au deuxième chapitre, le sondage.
Tintin.
Merci. J'étais pas sûr que tu le fasses bien. Merci.
Toujours prêt.
Donc, deuxième chapitre, suite à ça, Elon Musk a fait un sondage sur Twitter demandant est-ce qu'il faut réintégrer le président Trump ou pas. Évidemment, son audience est quand même particulière. En tout cas, plutôt, il semble, du bord du politique du président Trump. Quoi qu'il en soit, le sondage a réuni 51,8% de votes parmi les plus de 15 millions d'utilisateurs qui ont voté pour le oui. Il a donc réactivé le compte de Donald Trump et il a dans la foulée réactivé d'autres comptes quand même assez controversés, beaucoup de politiques très à droite du spectre politique américain. Le compte de Kanye West, ou Ye, qui avait été suspendu pour antisémitisme. D'ailleurs, son premier, techniquement son deuxième tweet, ça a été Shalom. Super. Bref, il a réintégré toutes ces personnes. Il avait dit à son retour, enfin à son rachat, il avait dit quelque chose qui avait vaguement rassuré les gens en disant que les grandes décisions de modération seraient prises par un comité avec, je mets les guillemets, des points de vue extrêmement divers, ce qui est toujours un petit peu un piège, ce genre de choses, mais bon, des points de vue extrêmement divers, mais en tout cas que ça serait pris par un comité indépendant. Là, il a lui-même pris les décisions, ce qui tend à confirmer ce que disait Yoel Roth, qui dit « toute façon, il change d'avis comme de chemise et c'est lui qui décide de tout. Bon, une petite remarque qui est à la fois très personnelle et indicative de la manière dont il fait les choses. Certains lui ont demandé s'il allait réintégrer Alex Jones, qui est une figure très décriée de l'extrême droite américaine, qui est carrément, lui, qui monte dans les arbres. Enfin, c'est un il vend des... C'est InfoWars. Bon, vous connaissez, il vend des théories du complot complètement ahurissantes. Il a prétendu, il continue à prétendre, et il y a un gros procès à ce propos, que la tuerie de masse... Ah zut, je ne me souviens plus du nom. Il y en a tellement aux États-Unis. Bref, que l'une des tueries de masse était en fait... qu'il y avait des acteurs, que les enfants n'étaient pas vraiment morts. Enfin, un truc sordide. Et Elon Musk a répondu non, lui, on le ramènera pas parce que je n'ai aucune pitié pour les gens qui se font de l'argent sur la mort des enfants. Il se trouve, je l'ignorais, mais il se trouve que, visiblement, son premier enfant à Elon Musk est mort et qu'il disait dans un tweet, il est mort dans mes bras. Enfin, c'était... C'est vraiment dur à lire et c'est dramatique évidemment pour Elon Musk. Et il dit donc je n'ai aucune pitié pour les enfants, mais en même temps, ça souligne à quel point il prend ses décisions en fonction de ce qu'il pense lui spécifiquement et le prétexte d'une sorte de neutralité, parce que lui, il dit, c'est pas un retour de la droite sur Twitter, c'est un retour au centre, qui est, bon, on pourrait en parler pendant des mois, et je pense pas qu'on tomberait d'accord avec Elon, enfin, moi, je tomberais pas d'accord avec lui, mais bref, il prend quand même ses décisions selon son avis à lui et son expérience à lui, donc, quand il dit, on essaye d'avoir la voix de tout le monde, bon, clairement, c'est pas le cas. De toute façon, personne n'a d'illusion sur le fait que ce soit le cas, vu la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Un autre truc à mentionner, c'est que Donald Trump a dit qu'il ne reviendrait pas sur Twitter parce qu'il y a plein de bots et de trucs. Et depuis, Elon Musk essaye de le troller pour le faire revenir. Enfin bon, bref, c'est la cour de l'école. Chapitre 3, la réalité de la situation. Très bien, ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Oui, c'était Sandy Hook, tout à fait. Merci à la chatroom. La tuerie de masse que dénonce faussement Alex Jones. La réalité de la situation, c'est qu'en fait, tout ça, en fait, a assez peu d'importance. Elon Musk a dit qu'ils avaient fini de renvoyer... Enfin, assez peu d'importance. On va s'entendre, je vais expliquer. Mais ils ont fini de renvoyer des gens. Il a fini sa purge et il va réembaucher des gens qui correspondent plus à la manière dont il fait les choses dans ses sociétés. Okay, il veut réengager essentiellement des ingénieurs et des développeurs, mais aussi des gens dans la vente de pubs. Et c'est ça qui est... C'est un truc que j'ai tweeté. La réalité, c'est que... tout ça a assez peu d'importance. Le seul truc qui compte pour la survie de Twitter, c'est les annonceurs. La survie repose à 100% sur les annonceurs, parce que c'est eux qui font rentrer l'argent. Et si les annonceurs ne restent pas ou ne veulent pas revenir sur Twitter, il y a eu plusieurs grosses agences de conseils qui ont conseillé à leurs clients de mettre en pause leur publicité sur Twitter. Bah, s'ils ne reviennent pas, ceux-là... Twitter n'a aucune chance de survivre parce que 90% de leurs revenus, même s'il a coupé les dépenses, 90% des revenus, c'est les annonceurs et c'est la pub. Et là, avec les figures controversées qui reviennent, je ne suis pas convaincu que ça les motive à revenir. Maintenant, peut-être qu'ils en ont toujours assez et que les annonceurs suffisent à faire vivre le réseau. Les annonceurs qui sont là, j'en sais rien. L'autre aspect, c'est l'aspect technique. Le truc peut peut-être se planter parce qu'ils n'ont pas assez d'ingénieurs. Bon, au pire, on a vécu avec le fail whale pendant des années, au début de Twitter, et le réseau n'a pas disparu. Je pense que là, ça serait la même chose. S'il tombe une journée, deux journées par-ci, par-là, bon, bah, il va pas disparaître. Par contre, il y a un autre danger, entre guillemets, c'est la réaction des App Store, Apple et Google. On a vu que Phil Schiller, l'un des gros hauts responsables d'Apple, a désactivé son compte. Si Apple estime que le réseau devient véhicule d'idées problématiques, ils pourraient retirer Twitter de leur App Store, comme ils l'ont fait avec d'autres apps. Ça serait un problème, même chose chez Google. Donc voilà pour le résumé, qui n'était pas si rapide. Mais maintenant, je voudrais me retourner vers vous Et comme je le disais tout à l'heure, Christophe, toi qui comprends parfaitement bien les enjeux d'une infrastructure mondiale comme celle de Twitter, est-ce que tu crois que le fait qu'on soit passé de 7500 à 2700 employés, alors il y a des ingénieurs, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'autres types d'employés également, est-ce que ça met vraiment en danger l'infrastructure technique d'un truc comme Twitter, ou est-ce que les gens se sont plus à prédire la mort de Twitter, mais qu'en fait, bon, ça peut tout à fait tourner, les trucs sont en place, quoi.
Eh bien, ça va dépendre de comment on va s'en servir de Twitter, globalement. Parce que si... en fait, j'ai regardé, tu peux avoir la liste, hein, des employés qui sont partis, tu peux avoir... c'est un truc qui se fait depuis quelques temps au niveau de la tech, notamment des startups aux États-Unis. Tu as un site qui s'appelle layoffs.fyi qui te liste tous les layoffs, du coup. Et tu peux voir la liste nominative, hein, de toutes les personnes qui sont parties, du coup, pour voir un petit peu quels sont les types de personnes qui sont parties au niveau tech. Donc, il y a des gens, effectivement, plutôt au niveau développement, il y a des gens plutôt au niveau support de la plateforme qui sont partis aussi, donc ça, c'est un peu plus pénible. Ce qu'on appelle les SRE en français. Et alors, sur l'enjeu de est-ce que la plateforme tient toute seule, s'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui partent dessus, si l'usage n'évolue pas, c'est-à-dire que si personne ne s'en sert, ça va tourner. Aujourd'hui, on a des infrastructures cloud qui sont auto-scalées, donc qui peuvent s'auto-adapter de manière élastique à l'usage qui en est fait dans une certaine mesure, pour peu qu'on ait mis les bons curseurs. Donc sur le papier, tu peux arriver à faire quelque chose. Dans la pratique, tu vas toujours arriver dans des situations que tu n'as malheureusement pas prévues, sur lesquelles il va falloir que tu réagisses. Et ça peut être des choses toutes bêtes comme une base de données qui atteint ses limites, le fameux disque dur qui est plein, mais ça on l'a de moins en moins, mais c'est des cas similaires comme ça sur lesquels il va falloir que tu réagisses derrière, parce que c'est un truc auquel tu n'as pas pensé au niveau de la conception. Et c'est là où des équipes comme ça sont utiles, parce qu'elles vont pouvoir intervenir rapidement. C'est en général des gens qui sont on-call, donc qui sont dispo en 24/7 pour intervenir, pour assurer la fiabilité de la plateforme et corriger ces problèmes. Et un autre truc, c'est que Twitter, le problème, c'est qu'ils sont très dépendants de l'actualité, et c'est pas prédictible. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, il peut arriver un pic d'usage sur une certaine fonction, et ils l'ont pas anticipé. Et ce pic d'usage, il va provoquer, par effet boule de neige, un comportement particulier sur un composant technique qui n'était pas prévu pour supporter une télécharge à un tel moment, parce qu'un autre composant derrière a agi d'une telle manière. Et ça, c'est du comportement que tu ne peux découvrir que à l'usage, au volume, et c'est très difficile de pouvoir tout anticiper avant. Et donc là, il faut pouvoir réagir, adapter l'infrastructure de la plateforme. C'est là où ces équipes-là sont hyper, hyper importantes.
Et c'est les équipes dont certains disaient « mon équipe est vide, quoi, il n'y a plus personne ». Et donc, les gens qui réagissent à ça, normalement, ils ne sont plus là. Donc forcément, ça va merder. En même temps, ils sont encore 2700. J'imagine qu'il a beaucoup gardé d'ingénieurs et de développeurs. Bon,
La difficulté, c'est que même si tu... Enfin, c'est pas que des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont un savoir sur l'infrastructure de Twitter, qui est très particulière, j'imagine, à cette échelle. Donc,
trucs qu'on fait nulle part ailleurs, quoi. L'infrastructure de Twitter est différente de celle de Facebook, est différente de celle de Google, etc. C'est très spécialisé, quoi.
Exactement. Alors, surtout Facebook, ils sont encore plus particuliers. Mais oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un savoir de la plateforme existante qui est hyper utile. Donc, quand les gens partent, tu perds des compétences, mais tu perds du savoir, surtout. Et si tu n'as pas une bonne culture de la documentation et du partage du savoir dans ta boîte, c'est quelque chose qui peut devenir très, très, très compliqué pour la suite. Parce que tu te retrouves avec des gens qui ont certes des compétences techniques, sur des composants techniques, mais pas du tout le savoir de comment la plateforme se comporte, parce qu'ils n'étaient pas là historiquement, parce qu'ils n'ont pas vécu certains coups durs, des choses comme ça. Et ça, c'est une vraie perte.
Donc il y a un vrai danger. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser avec une panne de Twitter? Peut-être des pannes ponctuelles, mais là encore, je pense que ça sera corrigé au bout de quelques heures, quelques jours. Il y a une autre...
Pour rajouter un peu... Pardon de te couper, Patrick. Pour rajouter un peu sur l'aspect technique, parce qu'on a eu un droit de regard là-dessus avec tout ce qui s'est passé sur Twitter. Il faut voir que, comme tu le disais, Christophe, c'est une plateforme assez vieille, mais surtout qu'il y a beaucoup de code legacy, donc des processus qui n'ont pas été mis à jour au niveau du code, hein, tout simplement du programme, qui sont donc pas forcément super connus des nouveaux employés. Beaucoup d'anciens employés sont partis aussi, et Elon Musk a tendance à taper dans la fourmilière, essayer de faire bouger les choses, même au niveau technique. C'est surtout là où c'est inquiétant, en fait, sur le, la possibilité que ça se foire. C'est que si encore, s'il ne touchait pas la plateforme, la laissait comme ça, ouais, il n'y aurait pas de souci. Mais il est en train de supprimer énormément de codes, qui fait qu'on a vu, il y a quelques jours maintenant, que l'authentification de deux facteurs avait été morte tout d'un coup. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Le Content ID qui repérait les vidéos copyrightées, qui a sauté pendant un moment. Les gens se sont mis à uploader des films complets par extrait de 2 minutes, voilà, avec des dizaines. Mais tu vois, même ça, c'est un bon exemple. Le deux facteurs, je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, hein, mais l'authentification deux facteurs, elle a sauté pendant 2 jours et puis elle est revenue. Le repérage des contenus copyrightés, il a sauté pendant 2 jours et puis il est revenu. C'est des trucs. J'ai l'impression quand même que techniquement, c'est peut-être un symbole de ce qui se passe pour Twitter dans son ensemble. Il y a beaucoup de gens qui estiment que du coup, ça va merder forcément, ça y est, c'est la fin. Mais c'est un petit peu aller vite en besogne, quoi. C'est un petit peu exagéré, je trouve. Même si Dieu sait que je suis frustré de ce qui se passe avec Elon Musk, on en parle non-stop depuis 3 semaines. Mais,
mais c'est à l'image de Twitter, ce qui se passe sur Twitter quelque part. C'est qu'on est dans de l'explosion de news, donc forcément il y a une réaction presque allergique à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Sauf que là où ça faisait la force du réseau social, aujourd'hui ça joue contre lui. Parce que l'explosion négative se fait contre la plateforme elle-même. Aujourd'hui, effectivement, on peut se dire que technologiquement, il peut rattraper les choses, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que même s'il rattrape les choses, il faudra de l'investissement. Si Twitter perd ses annonceurs et qu'en plus, il doit investir massivement pour rattraper sa plateforme technologique, c'est là où, quand tu fais un plus 1, ça risque de faire 0 à un moment, en fait. Ouais.
Un plus 1, ça risque de faire 0, effectivement. Mais on a même... Bon, bah, tu touches du doigt cet autre problème qui est la question de la modération. Ne serait-ce que... Alors, il a une image qui est visiblement pas très globale de sa plateforme. La manière dont il envisage le fonctionnement, même s'il a fait une remarque sur le Japon qui a autant d'utilisateurs Twitter que les États-Unis, et donc il dit « Ah oui, mais en fait, on est plutôt une plateforme japonaise hein. !» Bon, bref. La manière dont il envisage le fonctionnement, notamment de la modération, ça ne fonctionne pas en France et en Europe. C'est juste illégal, ce fonctionnement. Au-delà du fait qu'il a renvoyé plein de gens qu'il ne pouvait pas renvoyer de cette manière parce que, en France, c'est pas possible. D'ailleurs, le DG de Twitter France est parti en remerciant tout le monde. Visiblement, il n'est pas hyper confiant. Enfin, peut-être qu'il est confiant, mais en tout cas, il est parti. La modération peut juste pas fonctionner comme ça. Mais là encore, je me demande si c'est pas des détails. Et que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout ce qu'il fait, en fait, est corrigeable. Tous les problèmes, c'est du... Et encore une fois, je me fais à l'avocat du diable, je ne suis vraiment pas content de la manière dont il gère les choses. Mais si on voit à 6 mois, le seul truc qui va compter, c'est est-ce que les annonceurs seront encore là ou pas ? Et toutes les autres questions vont découler de ça, mais l'agitation qu'on connaît autour de Twitter et de la personnalité d'Elon Musk n'ont finalement pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est les annonceurs. Et de là, on peut parler de, alors, est-ce que Donald Trump va poser des problèmes ? Est-ce que la modération va être problématique ? Est-ce que... etc. Mais c'est ça, c'est sur la survie de Twitter, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben, je vais partir, je vais aller sur Mastodon, je vais aller... » Il y avait Hive ces 2 derniers jours. C'est une app que plusieurs personnes disent « Ah, oh, Hive, c'est super, on va y aller. » Rien du tout. C'est Twitter. Tant que Twitter ne sera pas dans le tombeau, Twitter restera... Le prochain Twitter, c'est Twitter, en gros. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout à sa démise. C'est un anglicisme merveilleux. Mais voilà. Après... Pour des problèmes de modération, ils peuvent faire peur aux annonceurs, ils peuvent faire peur à Apple. Le fait que Phil Schiller ait désactivé son compte, c'est un signal vraiment fort. Ce genre de choses, oui. Mais Elon Musk qui fait des siennes, c'est pas ça qui va poser directement les problèmes de Twitter. C'est indirectement que ça va arriver. La question de la modération est importante, c'est sûr. Mais...
Je veux pas forcément truster la parole, mais,
non, mais
j'ai
si,
pas mal de choses à dire.
C'est moi qui truste la parole d'habitude, donc...
En fait, pour moi, le truc au centre de Twitter, c'est qu'effectivement, Twitter ne va. Je ne crois pas au fait que Twitter va mourir sous Elon Musk, effectivement. Mais Twitter, la plateforme. Par contre, Twitter, le réseau social, c'est possible. Tout simplement parce que Twitter, aujourd'hui, est un réseau social qui a une place très particulière dans le paysage public, que ce soit dans la politique, mais aussi dans l'actualité, etc., etc. Donc
il y a plein de gens différents, d'entités différentes, des gouvernements, des associations de journalistes, etc., qui tout à coup commencent à trouver toutes les qualités à Twitter. De là que monde entier semblait détester Twitter et dire que c'était l'enfer sur Terre et machin. Tout à coup, maintenant, quand la perspective de le voir disparaître se profile, il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais attends, c'est hyper utile sur ça, c'est hyper bien sur ça, c'est hyper… » Ça me fait toujours un peu rire parce que je prône la mesure, comme vous le savez. Mais oui, pardon, je voulais mentionner ça sur ce que tu
dis. Non, mais t'as parfaitement raison, parce qu'en fait, c'est là où on trouve la mesure de Twitter. C'est que la mesure de Twitter, c'est le réseau social qu'on adore détester. Et du coup, tu trouves la moyenne dans ça, dans l'absolu grand ou l'absolu petit, tu vois. Mais le problème de ça, c'est que la fonction de Twitter, elle est importante, elle va rester. Mais est-ce que Twitter va rester? C'est pas sûr. Parce que là, en fait, on l'a vu dans toute l'évolution de n'importe quel réseau social, un réseau social a besoin d'être stylé, en fait, auprès du grand public. Il est en train de tuer l'image de Twitter, ce qui veut dire aussi qu'il l'affaiblit face à de potentiels concurrents qui pourraient du coup récupérer non seulement le principe de fonctionnement de Twitter, mais aussi son image, et à ce moment-là, faire fuir les gens vers un autre Twitter, en fait. Twitter, en tant que plateforme, va continuer d'exister, c'est sûr. Est-ce qu'elle s'appellera Twitter? Ça, c'est pas dit, par contre.
Oui, c'est possible que le public de Twitter... Moi, le truc, c'est que je vois pas, et on revient à des questions politiques, hein, toujours, mais je vois pas les gens qui sont à droite du spectre politique américain partir. Mais par contre, ce truc qu'il prétend depuis le début, il prétend dire non, moi, je suis au centre et la question n'est pas de ramener la droite, de pousser Twitter à droite. Encore une fois, ça se discute. Je pourrais imaginer des gens qui ne veulent pas être sur un réseau où la modération est inexistante et donc on a des problèmes de contenu. Et ces gens-là, généralement, c'est des gens, alors on va dire à gauche, mais il y a un truc qui est frustrant dans ces conversations, c'est que les gens qui sont du bord de Trump et des républicains MAGA vont me dire tout ce qui est à droite, à gauche de moi, c'est la gauche. Et c'est pas vrai du tout. Il y a énormément de républicains qui ne sont pas du tout en phase avec Donald Trump. Et partout dans le monde, l'extrême, à vrai dire, on voit un petit peu ce comportement à gauche aussi, en particulier en France, où les gens qui sont vraiment à gauche vont dire ce qui est à droite de moi, c'est la droite. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui sont au centre. Et en l'occurrence, je pense que si Elon Musk privilégie trop la facilité pour la droite MAGA, y a beaucoup de gens qui risqueraient de plus y être très à l'aise. Et donc, ça serait une sorte de prophétie autoréalisatrice qui transformerait, je pourrais imaginer, un réseau qui deviendrait le refuge de ceux qui n'apprécient suffisamment pas la droite MAGA pour aller ailleurs. Et donc, ça ferait un schisme complet avec un réseau à droite, un réseau à gauche. Je schématise, mais un réseau à droite, un réseau à gauche, et donc une sorte de d'immense bulle... Bon, on n'y est pas encore, mais je pourrais imaginer que ça pourrait donner quelque chose comme ça, quoi.
On est plus ou moins sur la même ligne de pensée, quoi, en fait. C'est qu'il peut y avoir un renversement très rapide de tout ça. Après, honnêtement, effectivement, on aime aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on aime être clivant, que ce soit à gauche, à droite, en haut, en bas, tout ce que vous voulez. Mais je pense très sincèrement que Twitter, ça va juste devenir un moment... Elon Musk il fait j'ai pas réussi, j'ai fait de la merde, bon évidemment il va le twister pour être en odeur de sainteté au bout, quelqu'un va le reprendre, il va rester au board et puis voilà, il aura eu ce qu'il voulait au final, un droit de contrôle, mais il est pas assez bon pour le gérer.
Il y a, et d'ailleurs Tesla visiblement est un petit peu en mauvaise posture parce qu'il trop de temps chez Twitter. Moi j'imagine bien l'arrivée d'un CEO qu'il va nommer, il va dire ok c'est bon, j'ai fait mon boulot maintenant, voilà, je vais faire d'autres choses. Bon, on verra.
Il a pété les meubles et après, il va appeler quelqu'un pour nettoyer, quoi.
Ouais. Tu sais, Je me demande, j'ai, encore une fois, vous le sentez s'approcher, vous l'entendez. Je l'ai trop fait, là, ça appelait le jingle. mais je peux pas m'empêcher de me demander quelque part dans l'arrière de ma tête, est-ce qu'il n'est pas arrivé avec des méthodes de gougnafier, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui avait besoin d'un éléphant dans son magasin de porcelaine pour casser complètement l'existant, un passif trop lourd qui, au final, redynamisera le réseau. Il pense à... Il a, en dehors des trucs problématiques, il a des projets, les Twitter Blue, donc la vérification pour business, du chiffrement partout, des notes plus longues sur les tweets, des vidéos très longues, etc. Peut-être que au final, c'est ça qui sera important, la redynamisation technique des fonctionnalités de Twitter. Et puis tout le reste, un département de modération, ça se reconstruit. Parce que je suis convaincu qu'il faut de la modération et que ça, il va s'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas s'il va s'en rendre compte, mais je suis convaincu qu'il faut de la modération. Le reste, ça se reconstruit, ça se corrige. Ça prend 3 semaines, 6 mois, 1 an, mais ça se corrige. Le bousculement d'une culture d'entreprise qui ronfle, ça, c'est pas facile. Donc, c'est un peu l'avocat du diable.
J'ai un propos inverse.
D'accord, vas-y.
Je suis quelque part d'accord avec toi, mais je le suis pas non plus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Twitter, si il évoluait très lentement, c'est aussi parce que la plateforme reconnaissait d'elle-même la place qu'elle avait prise dans le paysage particulièrement politique, et auquel cas, quand tu as une place aussi importante dans les débats mondiaux de grandes démocraties, tu peux pas du jour au lendemain tout péter, faire salut des bisous. Et après, là où effectivement on peut parler du fait que peut-être que Elon Musk a un plan, moi j'aurais tendance aussi à argumenter l'inverse, qui est que en fait Elon Musk n'a pas de plan. Là où justement je peux m'inscrire en contraire, même si je crois pas forcément à ce que je vais dire non plus, mais c'est histoire de faire vivre le débat.
Alors tu fais l'avocat pas du diable mais de Dieu, je sais pas, des dieux.
Ouais, on va dire ça comme ça. Et que je pense qu'aujourd'hui, on arrive au bout de ce modèle très Silicon Valley d'imposer une espèce de figure publique emblématique qu'on porte au nu comme un génie. Je pense à Elon Musk, je pense à Mark Zuckerberg aussi. Et qu'on est en train, au contraire, de faire tomber les masques et de se rendre compte que ces gens-là ont eu, certes, une bonne idée. Hein, on ne va pas leur retirer ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des génies, ils sont tout à fait capables de faire du gros caca, pour rester extrêmement poli, et qu'on est en train de l'observer aujourd'hui, que ce soit dans la lubie de Mark Zuckerberg avec le métaverse, ou Elon Musk et ce qu'il arrive avec, qui arrive avec Twitter, sachant que ça fait aussi remonter dans le débat des choses sur lesquelles on a fermé les yeux, parce que la communication Elon Musk, comme j'ai envie de le dire, était assez puissante, le fait qu'il a fait foirer des tonnes et des tonnes d'entreprises qu'il a rachetées et qu'il a fait payer ces foirages chez Tesla, chez d'autres entreprises qui fonctionnaient bien. Donc voilà, c'est peut-être aussi le moment de retrouver un esprit critique finalement, parce que le clivage qui est poussé par les réseaux sociaux, c'est amusant, mais ça nous fait aussi porter au nu ce genre de personnalité qui devrait être peut-être revenir dans la moyenne finalement. Quand elles font des trucs bien, c'est bien. Quand c'est nul. Voilà, tout bêtement.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens pour dire que ce qu'il fait, c'est nul, quand ce qu'il fait, c'est nul aussi. Mais oui, c'est ce clivage qui est violent, c'est certain. Et je pense qu'on fait partie de ces gens-là depuis quelques semaines. Bon, écoutez, ça va être le mot de la fin sur cette partie Twitter. On va passer au reste de l'actu. Je vérifie que j'avais pas d'autre chose à dire sur Twitter avant. Bon, c'est pas grave, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. En attendant, vous savez de quoi je vais vous parler. Patreon, ça c'est un truc qui est même pas besoin d'avocat du diable, c'est que merveilleux, Patreon. Vous savez pourquoi ? Parce que l'émission, elle est disponible pour tout le monde, comment dire, vous pouvez la télécharger entièrement gratuitement, Mais c'est grâce à ceux qui soutiennent sur Patreon. C'est vraiment le moyen de soutenir, de financer l'émission de largement majoritaire. Et c'est grâce à vous, les auditeurs, qui décidez de la soutenir. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous décidez, allez, je vais mettre 2 euros, 3 euros, 5 euros, 25 000 euros. Il n'y a pas un niveau à 25 000 euros, mais il y en a à quelques euros. Et vous pouvez, de cette manière, obtenir les bonus qu'on donne pour les auditeurs qui deviennent patriotes. Par exemple, il n'y a pas de pub dans les émissions, il n'y a pas cette petite partie autopromo au milieu, il y a les contenus bonus, les after-shows, peut-être qu'on va faire un petit after-show d'ailleurs aujourd'hui, etc., etc. Et surtout donc la fierté, la joie de soutenir l'émission, la fierté d'être, de faire partie des gens qui apprécient les contenus et les créateurs de contenus et qui les aident dans leurs démarches, démarches qui sont parfois motivées, comme la mienne. Si vous appréciez l'émission, si vous appréciez la manière dont on fait les choses, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes, hein, même depuis votre mobile, vous pourriez le faire maintenant, vous pourriez être en train de le faire maintenant, tout de suite, patreon.com/rdvtech.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et on passe au reste de l'actualité. Là, on a l'impression d'être à la plage, c'est la fête, tout va bien. Sauf que vous utilisez le compte Netflix de votre ami Otaksu qui, lui, bosse dur à Paris. Et vous vous rendez compte que peut-être qu'un jour, bah, tout à coup, je suis viré de mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Netflix qui a activé une fonctionnalité pour vérifier qui est connecté à notre compte, qui l'utilise et pouvoir désactiver les accès. Ça sent quand même le prélude à maintenant, on n'autorise plus le partage de mot de passe. Hein. Ils en parlent depuis un moment. Là, ils donnent les outils pour pouvoir contrôler tout ça. Ça ne va plus durer très longtemps, la plage, avec le compte d'Otaksu. Walt Disney Company a ramené Bob Iger. Vous savez, Bob Iger, c'est celui qui a présidé, c'est le président qui a présidé à la période d'expansion et de succès insolente de Disney. Ça faisait 2 ans qu'il était parti et que Bob Chapek était le CEO. Et ben Bob Iger revient seulement pour 2 ans, mais il revient quand même pour redynamiser l'entreprise. Alors, est-ce que ça veut dire plus de dynamisme dans le monde du streaming ? C'est possible. Peut-être qu'il a refusé une offre de Salto, la plateforme de streaming française, pour retourner chez Disney, parce qu'elle est en difficulté, cette plateforme. En fait, les actionnaires, les composants essentiels de Salto n'en veulent plus. Et elle serait donc à vendre. Enfin, France Télévisions, TF1 et M6 ne veulent plus de Salto. Et du coup, on ne sait pas très bien ce qui va lui arriver. Beaucoup de gens parlent du seul racheteur potentiel, c'est Canal+. Mais Canal+, ils ont déjà MyCanal, ils s'en foutent complètement de Salto. Donc, a priori, ça ne serait pas surprenant que ça ferme bientôt. Mais le plus important dans ces... Vous avez compris que j'ai réuni tous les petits sujets de streaming ensemble, c'est le 11 All-Stars. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement du streaming franco-espagnol après le GP Explorer, qui était un événement de Formule 1 organisé par des streamers et notamment à l'initiative de Squeezie. Et bien là, le 11 All-Stars, c'était 11 streamers français contre 11 streamers espagnols dans un match de football qui a été diffusé sur Twitch et qui a battu le record du nombre de téléspectateurs juste après, enfin un mois après GP Explorer, qui avait lui aussi battu le record du nombre de téléspectateurs et qui était réalisé vraiment encore mieux qu'un match de foot traditionnel à la télé. Pourquoi ? Pas parce qu'ils avaient... Alors, ils avaient une équipe de matchs de foot traditionnel, mais surtout, ils les ont laissés essayer des trucs super sympas, comme par exemple, un caméraman avec une Steadicam, donc très mobile, qui est carrément... qui courait sur le terrain, qui est passé derrière les gardiens de but, etc., etc. C'était des moyens techniques qui étaient impressionnants. Et le stade était plein, enfin, c'était de la folie. Donc voilà pour les histoires de streaming. Moi, ce que je remarque le plus, bien sûr, c'est GP Explorer. Deuxième fois qu'un événement sportif dépasse presque les attentes des téléspectateurs traditionnels, mais sur YouTube... pardon, on précise que c'est Formule 4, pas Formule 1, GP Explorer. Autant pour moi, merci à la chatroom. J'imagine que c'est Eleven All-Stars qui vous a plus intéressé que le retour de Bob Iger, mais je vous laisse la parole quand même. Christophe, t'as été bien silencieux pendant ces dernières minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces histoires de streaming ?
Moi j'ai Eleven All-Stars, j'ai suivi de loin, j'ai vu le GP Explorer, mais parce que j'aime bien Villebrequin, c'est surtout eux qui m'ont amené là-bas, chaîne YouTube au passage, et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que on voit que pendant longtemps, tu sais, on a souvent parlé de YouTube, des YouTubers, des streams versus la télé, et la télé à papa notamment, et là on voit qu'on commence à se rapprocher, c'est-à-dire qu'on a des événements qui sont sur la base équivalente, c'est-à-dire que tu as des contenus à peu près similaires, sauf que ça avec des publics plus jeunes et surtout des nouvelles façons de faire. Et ça met un sacré coup de pied dans la fourmilière parce que du coup, ils se permettent plein de choses que ne pouvaient pas faire les autres parce qu'il y a de la réglementation, parce qu'il y a des habitudes de faire aussi qui sont là. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper rafraîchissant. Et en plus, ça passe sur des plateformes que tu peux voir un peu plus facilement, hein, puisque tu fais le parallèle avec Salto qui est et TF1 M6 qui sont des chaînes aujourd'hui qui sont difficiles à pouvoir capter un petit peu de n'importe où. Là où voilà, un Twitch, tu l'as depuis ton mobile, une tablette, un ordi en mobilité comme tu veux, quoi, dans ouais. Ta chambre.
Il n'y a pas de d'abonnement forcément, de 14 000 pubs. Alors, il y a des pubs sur Twitch, mais la facilité d'accès est certainement plus importante. Enfin, c'est incroyable, mais c'est encore plus facile de regarder Twitch que de regarder TF1, ce qui est ironique. Quoi.
C'est ironique aujourd'hui là-dessus. Et puis, c'est hyper rafraîchissant. Enfin, ce contenu-là est quand même vachement rafraîchissant. Donc, moi, je trouve ça cool. Et je serais curieux de voir si derrière, il va se passer une réaction côté télé traditionnelle, voir s'ils vont peut-être faire bouger des choses. Là, il faut savoir que la réglementation empêche de pouvoir avoir des caméras sur le terrain.
Mais c'est la réglementation de la FIFA, j'imagine, ou de ce genre de truc. Tu vois, c'est pas une loi, donc ils pourraient le faire quand ils veulent. C'est exactement l'exemple du « ils prennent un contenu ». Et je peux tout à fait imaginer ce genre de choses. Et ils y vont. Alors, les streamers n'ont pas envie de devenir footballeurs professionnels. Hein. C'est des trucs marrants qu'ils font comme ça parce que ça les amuse sur cet événement et que ça fait de la visibilité, etc. Mais le fait qu'ils réussissent à faire un événement comme ça sur la base, comme tu le disais, de contenus qui sont plutôt traditionnels et en faire un événement qui connaît un tel succès, ça doit faire... parce que ce n'est pas demain que la FIFA va être délogée, évidemment. Mais ils doivent quand même se dire « Merde, attends une seconde, il y a peut-être des choses qu'il faudrait revoir. »
Exactement.
Ouais.
Mais exactement, parce qu'en plus, il y a deux choses. Il y a la façon de faire, donc la manière dont ça a été tourné, et il y a aussi toutes les communautés derrière, des gens qui sont allés chercher. Donc, il y a les deux qui entrent en compte. Mais à la rigueur, pourquoi pas ? Tu vois, la FIFA pourrait très bien avoir ce type d'événement aussi. Ouais. Ils pourraient surfer là-dessus. L'exemple que je prends aussi, c'est la Formule 1 qui s'est pas mal... plus démocratisé. Il y a eu un deuxième vent derrière. Il y a eu Netflix qui a mis les trucs. Donc, Formule 1 sont peut-être un peu plus en avance là-dessus sur le fait de rattraper sur les nouveaux médias, les nouvelles façons de faire. Mais il y a encore un écart. Là où le foot, c'est encore plus loin derrière.
Hein. Voilà pour le streaming. N'hésite pas, Maxime, si tu as quelque chose à ajouter.
Faites pareil, mais avec du rugby. Voilà. Et après, je regarderai.
On sent les préférences, effectivement. Entre parenthèses, c'est intéressant parce que Apple, je l'avais viré, mais Apple a aussi ils ont la Ligue américaine, l'exclusivité de la diffusion de la Ligue américaine. Et ils avaient fait avec d'autres sports quelque chose qui n'était pas du tout, justement, on disait, bah justement, Apple va faire des trucs hyper innovants, hyper intéressants. En fait, ils ont fait des trucs pas hyper intéressants avec ce qu'ils avaient. Peut-être que c'est trop tôt et que pour les années suivantes, ça va arriver. Mais ils ont les droits de la Major League Football, je crois, aux États-Unis, pour lesquels il faut payer un supplément, parce que ça coûte très cher. Et pareil avec Amazon, avec le football, il faut payer un supplément, il faut payer un abonnement spécifique. Mais du coup, eux, ils seraient sans doute très bien placés pour faire des choses intéressantes avec, je sais pas, le suivi des scores, des angles, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire en ajoutant plus de tech là-dedans, quoi.
Il y a toujours cette dualité entre plaire au plus grand public qui n'aime pas forcément l'innovation et avoir un petit public mais sur lequel tu peux innover très facilement. Donc c'est un peu loi éternelle sur tous les marchés, quoi.
Mais tu vois avoir, je sais pas moi, des caméramans en... Alors c'est compliqué, je comprends le steadicam, parce que si tu te prends le ballon, bah, ça fait merder le match, etc. Je comprends bien. Mais il y aurait des trucs comme ça qui ne poseraient pas de problème au public traditionnel. Tu vois, qu'on est passé de la HD à la 4K ou de la SD à la HD, les gens qui regardaient le foot depuis des années étaient contents parce que c'était mieux. Je pense qu'il y aurait des choses à faire pour leur proposer des contenus encore plus intéressants, quoi.
Totalement.
À propos d'Apple, il y a une société qui a étudié les envois de données, c'est pas analytique, mais merde, je cherche un terme que je ne trouve pas. Bref, les envois d'appareils iOS à Apple et qui trouve une donnée spécifique qui est le DSID, le Directory Services Identifier, qui est unique pour chaque utilisateur et qui peut donc théoriquement être lié au nom, prénom, date de naissance, email, Apple, etc. Et cette donnée donc est envoyée au serveur d'Apple, alors qu'Apple s'est beaucoup mis en avant sur la question de la vie privée. Donc c'est un petit peu intriguant. Ils n'ont pas encore répondu. C'est juste une société qui a donné cette information. Donc à voir, mais ça a l'air d'être relativement facilement vérifiable. Alors le DSID n'est pas directement lié aux autres données, mais elles peuvent être associées. Donc pour le RGPD par exemple, je suis pas certain que ça passe puisqu'on n'a pas donné notre accord. Bref, à suivre. Mais il se pourrait que ça soit un petit scandale de données privées pour Apple. Et puis d'un autre côté, pour l'année prochaine, les iPhone 15 Pro, il semble que Min-Chi Kuo ait décelé une différence entre les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. Alors les deux seraient en USB-C, mais l'iPhone 15 Pro aurait un USB-C rapide pour la transmission de données, et l'iPhone 15 classique resterait sur des vitesses comparables à ce qu'on fait avec le Lightning. C'est quand même un peu fourbe de la part d'Apple si ça se concrétise, mais bon, après, c'est vrai que seuls les pros...
Ça fait des années qu'on a le Lightning, et le Lightning, c'est de l'USB 2.0, hein, donc ça ne changerait pas grand-chose au final.
Ah oui, mais passer à l'USB-C et rester aux vitesses USB 2.0 pour les non-pros, c'est quand même un peu artificiel, quoi. Alors, ce n'est pas la première fois
Apple, hein.
Voilà.
C'est à quoi te dire, moi.
C'est tout ouais, à fait ça.
Pardon, est-ce qu'on s'en sert vraiment de vitesse de transfert sur les téléphones ?
Bah écoute, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es un pro et que tu as des gros fichiers vidéo à envoyer, tu vois, sur ton ordinateur, bon, la plupart des autres, à vrai dire, j'imagine qu'ils passent en Wi-Fi et pas, qu'ils vont pas brancher un téléphone pour transférer les fichiers, quoi. En ce sens-là,
c'est des Wi-Fi tellement performant maintenant.
Ouais. D'une certaine manière, c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas besoin de qui va connecter son téléphone pour transférer les fichiers, c'est vrai, ouais.
Donc, est-ce en fait, que tu le branches pour autre chose que pour le recharger, franchement? Je serais curieux d'avoir l'usage des gens qui le branchent, à part les développeurs.
Quand j'avais du temps et que ma chaîne YouTube existait encore, oui, je transférais les fichiers vidéo, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je transférais les fichiers vidéo en connecté, sinon ça allait trop lentement. Mais c'était la seule chose, ouais. Est-ce que, Maxime, toi, tu connectes ton téléphone pour autre chose que le charger ?
Littéralement toutes les semaines pour récupérer les photos de mes tests, en fait, hein, tout bêtement. Sachant que, quand même, l'usage de retoucher ces photos est de plus en plus populaire. Même si on peut les récupérer via effectivement certains services. Je pense à Google Photos parce que je suis sous Android, mais probablement l'équivalent iOS aussi. Sauf que la plupart de ces serveurs vont compresser automatiquement les images pour qu'elles prennent le moins de place possible. Ce que tu veux évidemment éviter quand tu fais un petit peu de retouche. Donc non, je trouve que ça reste quand même extrêmement important. Et il y a aussi un autre aspect qui, je pense, est important aussi chez les utilisateurs Apple. C'est la sauvegarde du système. Même si celle-ci se fait aujourd'hui aussi en Wi-Fi et peut se faire via iCloud, il n'empêche que beaucoup ont à cœur la sécurité et le font du coup en offline ou en physique. Et pour ça, l'USB 2.0, il faut quand même voir que c'est un truc qu'on avait quand les vidéos étaient en 480p, quoi. Donc bon.
Écoute, je suis d'accord en théorie sur ce que tu dis, mais personnellement, je suis du côté de Christophe, de notre nouvel avocat du diable, l'avocat d'Apple. J'ai jamais connecté. Enfin, les photos sont uploadées en full résolution sur iCloud, ce qui d'ailleurs leur permet de te vendre des forfaits encore plus volumineux parce que les photos prennent de la place. Et les backups, bah, ils sont faits sur iCloud aussi. Moi, ça fait, je sais pas, 8 ans que j'ai pas fait un backup de mon téléphone en physique, quoi. Enfin, sur mon...
Certes. Mais après, pour moi, véritablement, l'argument, c'est pas l'usage des utilisateurs. C'est simplement combien ça leur coûterait d'avoir l'USB 3.1 qui est aujourd'hui le truc que tu retrouves absolument partout. Limite, avoir de l'USB 2.0, c'est le même prix que l'USB 3.1, c'est un choix.
Ah, mais complètement. C'est pour ça qu'on dit, mais ils pourraient complètement le faire, ça leur coûterait rien du tout. C'est uniquement pour différencier les iPhone 15 et pouvoir dire aux iPhone 15 Pro, vous avez une vitesse de transfert ultra rapide. C'est uniquement pour ça, c'est garanti, c'est certain.
C'est là où ça m'agace, quoi, parce que bon, l'usage, effectivement, aujourd'hui, tout a évolué, quoi. Mais Apple n'a pas d'excuses technologiques, techniques pour le faire, donc c'est...
Amazon lance Amazon Clinic. Alors, il y a deux petites news Amazon. D'abord, le groupe matériel d'Amazon a de gros soucis parce qu'ils vendent leur matériel à perte, enfin, pas à perte, mais leur prix de fabrication, au prix de fabrication, sans... plus-value, sans marge, sans bénéfice. Et vous savez, c'est tous les appareils Echo qui vont faire fonctionner à Alexa, les Echo Dot, Echo machin, tous ces Echo. Et en fait, ils n'arrivent pas à monétiser ces trucs. Ils espéraient faire monétiser avec Alexa. Et d'après Ars Technica, le Alexa est au final... un échec colossal qui devrait leur faire perdre 10 milliards de dollars cette année. Donc, il ne serait pas impossible que tous ces trucs, l'écosystème éco, commence à disparaître bientôt. D'autant plus que, comme on en parlait la semaine dernière, et ça se confirme carrément, toutes les sociétés de la tech sont en train de faire des licenciements sensibles et notables. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais chez Twitter, il y a beaucoup de visas HB1 ou H1B, je ne sais plus. C'est un truc aux États-Unis qui te permet d'avoir un visa si tu as un travail. Et dans la tech, il y a genre 40 000 travailleurs de la tech aux États-Unis qui ont ce visa. Et donc, chez Twitter, il y a plein de gens qui ne peuvent pas partir. Et quand ils vont vouloir réengager des gens, vu que toute la tech licencie, ils vont pouvoir trouver des gens sans aucun problème parce qu'il y a énormément de travailleurs étrangers qui ont besoin d'un boulot pour garder leur visa et pouvoir rester aux États-Unis. Donc, bref. Tout ça pour dire que le groupe matériel chez Amazon, en particulier la section Echo et Alexa, eh ben, ça ne va pas du tout. À côté de ça, ils lancent Amazon Clinic. Alors, c'est quoi Amazon Clinic ? C'est une nouvelle tentative de trouver un relais de croissance dans la santé. Alors, ils ne font pas des services de santé eux-mêmes, mais c'est une plateforme de mise en relation entre les clients / patients potentiels et non pas des médecins classiques qui nécessitent une régulation spécifique, mais... Et pas non plus des choses qu'on peut acheter sans ordonnance dans les pharmacies, mais les trucs entre les deux. Les renouvellements de certains médicaments, les traitements pour de l'acné, ce genre de choses. Et c'est une première étape. On sait que la santé, c'est un domaine énorme pour les géants de la tech. Disons qu'ils commencent à grappiller des bords, mais ils ne sont pas complètement lancés dans le domaine parce que c'est très régulé. Là, c'est un moyen pour Amazon de mettre un pied là-dedans. Et c'est plutôt une méthode intéressante, enfin une manière de faire intéressante. Je ne sais pas à quel point c'est transportable dans d'autres pays, mais aux États-Unis, en tout cas, le panorama réglementaire fait que c'est possible de s'insérer dans cette petite ce petit espace entre les deux types de traitements.
Là, c'est extrêmement américain, quoi, pour le coup. Je vois vraiment pas comment ça pourrait fonctionner dans d'autres territoires où la santé est plus du domaine public que privé. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Je sais pas si...
Quand tu restes dans le domaine de la parapharmacie, ça va, mais là, ils vont quand même plus loin aux États-Unis. Hein, t'as quand même beaucoup de choses qui sont traitées en dehors du cycle médical traditionnel.
Ouais. C'est vrai. Donc, à voir où ça ira. Moi, l'histoire des échos, ça m'a vraiment titillé parce que vous vous souvenez, il y a encore 5-6 ans, on se disait, ben voilà, les assistants et les assistants intelligents, ça va être, ça va prendre la place, une partie de l'interface informatique, et ça va devenir en fait une interface vocale qui va nous permettre de faire de la recherche, d'avoir des conseils, d'avoir des infos, etc. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps, ben, les usages ont été très spécialisés, mais beaucoup d'acteurs s'en sont un petit peu détournés. On voit que Siri continue à évoluer, mais enfin pas énormément. Google Assistant, il fait plein de trucs cool, mais c'est des trucs spécifiques, genre on va prendre un rendez-vous pour vous ou on va attendre pendant la période d'attente quand vous essayez d'appeler quelqu'un et que vous êtes sur la petite musique, ce genre de choses. Amazon a continué à y aller à fond en développant Alexa et son écosystème Echo, mais même avec d'autres acteurs. Et Cortana a été délaissée par Microsoft. Et j'ai l'impression que là, c'est presque... c'est un signe hyper fort de bon bah ouais non mais en fait voilà l'usage des assistants intelligents vocaux existe mais il est limité et on a découvert les usages les quelques premières années et c'est pas allé au-delà quoi ou pas de manière significative donc pour moi c'est,
bon,
c'est
je pense qu'il y a il y a un autre angle pour moi, c'est-à-dire que je mettrais pas la faute sur les assistants vocaux, même si je suis d'accord avec toi que c'est resté relativement de niche quand même. Mais je mettrais plus la faute sur le fait que Amazon n'a pas su développer son assistant vocal au-delà de ses propres produits et au-delà de sa catégorie de produits surtout, parce que quand on pense à Alexa, on pense principalement aux appareils Echo en fait. Alors que quand tu penses Google Assistant, tu te dis il y a des ordi qui l'intègrent, il y a des smartphones évidemment tous les smartphones qui l'intègrent, il y a évidemment les enceintes spécialisées et trucs comme ça. Il en va de même pour Siri. Amazon est le seul finalement qui n'a pas su aller au-delà de j'ai presque envie de dire la domotique uniquement. Et du coup, n'a pas su après faire évoluer son assistant de telle manière à ce qu'il puisse faire autre chose que commander des choses sur Amazon quelque part, quoi.
Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est aussi une indication de la force et de la puissance des plateformes parce que tu mentionnes Siri et Google, bah, ils ont chacun une plateforme mobile, quoi. Donc forcément, si tu as déjà l'une des moitiés des plateformes existantes, je schématise beaucoup, hein, mais la moitié des plateformes existantes avec iOS ou Android... Bah, c'est plus facile de dire on existe, alors que Alexa, ils n'ont pas accès à cette force de frappe. Bon, ça ne change
ça,
pas le fait.
C'est la difficulté d'Amazon, c'est qu'ils ont dû amener le service avec le hardware. Ils n'avaient pas le hardware déjà en place, que les autres ont rajouté du service sur un hardware qu'ils avaient déjà. Donc, tu avais un service complémentaire. Et là où Amazon est en difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à monétiser en fait, ce service-là. Ouais. Là où le reste, c'est noyé dans la masse du hardware et du service packagé chez Google ou chez Apple. Que tu consommes chez eux, alors que là, Amazon, non. S'ils vendent le hardware à prix coûtant, derrière, le service à faire tourner au quotidien, ça coûte, parce que derrière, c'est quand même des sacrées machines pour faire la reconnaissance vocale et tout ça, sans compter tous les ingénieurs pour construire les algos, etc. Donc, c'est un service qui coûte énormément. Donc, s'ils n'ont pas de modèle économique juste sur ça, je ne vois pas comment ça peut perdurer.
Là peut-être où... pardon, Patrick, juste un tout dernier petit truc. c'est que si les appareils Echo demain sont amenés à disparaître, parce que Alexa, j'espère quand même qu'ils ont prévu que ces appareils passent sous un autre, peut-être un autre écosystème, peut-être Google ou ce genre de choses, pour éviter quand même une certaine pollution numérique, parce qu'on en parle de plus en plus et ça reste important.
J'aime ta naïveté, Maxime. C'est...
j'ai de l'espoir toujours, je sais.
Bah, disons que oui, moi je suis d'accord, il faudrait que ça passe. Et clairement, ça ne serait pas Apple, hein, mais ça serait Google. Mais moi, je vois complètement, début 2023, Andy Jassy arriver et dire « Bon, bah Alexa, ok, au revoir. Les échos, vous les gardez. Hein. Et puis, on va désactiver en juin 2023 le service. » Merci beaucoup, et voilà. Je pense que ça va être plutôt ça. Mais on sera peut-être agréablement surpris.
Je suis d'accord, mais bon.
Ils vont peut-être dire, renvoyez-les nous. On vous donne un crédit de 4 euros sur Amazon par appareil que vous avez acheté. Ça serait sympa. Ça serait déjà pas mal, tu vois.
Ils font pédale to the metal sur la domotique. Ils mettent à fond la balle sur la domotique. Ils avaient commencé à faire avec les... ils avaient fait des horloges connectées, des trucs comme ça. Ils avaient commencé à faire des...
Complètement, oui. Il y avait les... Je me souviens des appareils... Des fours à micro-ondes. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais là, 10 milliards de pertes cette année. Enfin... pédale to the metal, à un moment, tu peux commencer à voir que ça te coûte un peu d'argent. Donc, tu lèves le pied, je pense. À voir.
Donner le code source et filer ça à la communauté du libre.
Voilà, non, ça serait une bonne idée.
Très bien.
Un petit mot sur le merveilleux monde des crypto-monnaies. Nike est en train de lancer Point Swoosh, qui est une sorte de plateforme d'échange, de vente de basket virtuel. Et je sens le projet lancé début 2022, à l'époque où tout ça était en odeur de sainteté et qu'ils n'ont pas voulu arrêter pour ne pas perdre la face. Alors, il sera lancé en 2023, mais le projet, je pense qu'il est en développement depuis quelques temps. À mon avis, je le mentionne, mais voilà, je ne pense pas que ça ira très loin. Il y a un nouveau protocole intéressant dans le monde des crypto-monnaies qui est la preuve de solvabilité. Pour les plateformes centralisées. Binance est en train d'implémenter ça, mais c'est... je ne me souviens plus de son prénom. C'est Vitalik... je ne me souviens plus de son...
Buterin.
Vitalik, merci. L'une des têtes pensantes derrière Ethereum, qui a fait un papier très compliqué et technique sur la faisabilité de la preuve de solvabilité. Et ce qui pourrait aider les plateformes à ne pas être la risée du monde de la finance, parce qu'avec la chute d'FTX, qui continue à, je vous saoule pas avec, mais continue à avoir des conséquences sur tout le monde des cryptos. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a un papier intéressant aussi sur le effective altruism. C'est quoi l'effective altruism ? C'est l'altruisme efficace. Je le mettrai, c'est sur Numérama, je le mettrai dans la newsletter. C'est un courant de pensée qui est populaire dans la Silicon Valley, qui est l'idée que le capitalisme ne réussit pas à travailler, à créer des bénéfices pour la société, mais il est très bon pour créer, alors on pourrait arguer de la première partie, mais il est très bon pour créer du revenu. Et donc, si on est altruiste, il faut transférer ce revenu en devenant aussi riche que possible et en reversant l'argent à des causes dans lesquelles on croit, enfin des causes altruistes, comme enfin évidemment on va penser à combattre les maladies, combattre le réchauffement climatique, etc. C'était l'un des préceptes de Sam Bankman-Fried, SBF, dont on parlait encore la semaine dernière, le fondateur de FTX, la plateforme de crypto qui s'est effondrée dans un événement Lehman Brothers-esque. C'est une idée intéressante à explorer parce qu'elle semble être assez populaire, comme je le disais, aux États-Unis en particulier. D'une certaine manière, Elon Musk, qui veut rendre l'humanité multiplanétaire, est dans cette idée également. Moi, j'aurais tendance à penser que beaucoup d'entre eux prennent à cœur la première partie qui est de devenir aussi riche que possible. Et je ne sais pas à quel point ils redistribuent ensuite tout l'argent qu'ils ont généré ou extrait dans les causes qu'ils défendent. Certains.
Il y a une plus grande faille pour moi. Il y a une grosse faille là-dessus, excuse-moi de te couper, je trouve dans le raisonnement, bon déjà, on est sur deux news, ils sont à deux doigts d'inventer la banque et surtout à deux doigts d'inventer l'État. Parce que la faille de cet effectif altruisme là qu'on a, même si, si tu lis les grandes lignes, c'est mignon, mais dans les faits, ça veut aussi dire que les riches, ou ultra-riches dans cet exemple aussi, sont ceux qui vont décider de l'importance de certaines causes. Alors que c'est-à-dire qu'on aura des causes qui vont être moins mises en avant que d'autres à cause de cette espèce de au lieu de donner à l'État, c'est le modèle français, hein, l'idée d'aplanir, on va dire, les richesses, d'aider les plus démunis, d'aider des causes aussi, c'est donner juste à un gars, donner à un riche ce contrôle-là, ce pouvoir sur la société. Est-ce qu'on en a envie demain ? C'est très politique ce que je dis, mais... Et voilà, moi, vu ce qu'on voit, j'ai tendance à dire non, quoi.
C'est vraiment l'épisode de l'avocat du diable, mais les causes dans lesquelles... Est-ce que... Je n'ai pas besoin de ta réponse, mais je pose quand même la question. Est-ce que tu penses que notre modèle réussit à adresser les problèmes les plus importants, comme celui du réchauffement climatique ou... d'autres qui sont comparables, et est-ce que les gouvernements justement ont réussi à faire ce qu'il fallait pour adresser, pour gérer ces problèmes? Je pense que, je te pose pas la question à toi, mais je pense que beaucoup de gens qui critiqueraient l'idée de l'effectif altruisme, encore une fois, moi, c'est bien en théorie, en pratique, je ne sais pas. Et j'entends tout à fait ta critique, c'est de mettre dans les mains de certaines personnes l'intérêt commun. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais les gens qui émettraient ce genre de doute, je pense, diraient également que les gouvernements ne font pas assez vite pour régler les problèmes, notamment du réchauffement climatique, par exemple. Donc, je ne sais pas.
J'ai une réponse, mais...
Vas-y, non, mais tu peux.
Parce qu'il y a effectivement cet argument, j'en ai encore un autre. C'est aussi de se dire que si la mission étatique du bien commun a été vérolée, c'est aussi par le fait que ces instances qui étaient censées aider le bien commun ont été vérolés par les biens privés. Hein. Le concept du lobbyisme, il est pas récent il appartient à tous. Donc, on pourrait aussi dire que si ça ne marche pas, c'est parce que les milliardaires ont fait en sorte que ça ne marche pas.
Alors, écoute, je pourrais tout à fait combattre cette idée ou t'opposer des arguments. Et là, je me montrerai ma face.
Là, faudrait partir très loin.
Faudrait partir très loin. Mais ce que je dirais plutôt, c'est peu importe au final. Le système qu'on a aujourd'hui, il est celui qu'il est. Et peut-être que dans les prochaines élections, tout à coup, le monde, si on suit ton raisonnement, le monde va se réveiller et l'État passera aux mains de personnes qui ont vraiment à cœur le bien commun et qui se débarrasseront des influences mercantiles du monde capitaliste, tu vois, et que tout ira super bien tout à coup grâce à un courant de pensée plus noble. C'est possible. Mais en attendant, bon, d'une part, je ne sais pas si ça va se produire, ce scénario que peut-être tu souhaiterais. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce scénario. Donc, est-ce qu'on peut reprocher à... Je pars dans les théories, là, qu'on est dans la recherche fondamentale, tu vois. Mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un comme Sam Bankman-Fried de se dire, bah merde, ça ne marche pas, il y a des problèmes, on n'arrive pas justement à les régler parce que peut-être même que lui, il fait le même constat que toi. Et il se dit, bon... Je vais monter une plateforme d'échange crypto, je vais devenir, tu vois, multimilliardaire et je vais envoyer tout mon argent à des efforts de recherche contre le réchauffement climatique. Tu vois, il prend les choses dans ses mains. Je vais voter et je vais voter pour Bernie Sanders pour ramener la noblesse dans la politique américaine. mais en attendant, bah, je vais faire plein d'argent et je vais... Et entre parenthèses, évidemment, il n'était pas très pour le Bernie Sanders. Hein, ça, il n'est pas, je dis, il était.
Oui, évidemment, on connaît. Mais voilà, c'est pas pour essayer d'avoir un agenda politique, évidemment, que je dis ça. Simplement
non, mais je comprends.
Souligner le fait qu'il y a plein d'angles sous lesquels aborder cette question. Donc, pas rester enfermé dans nécessairement le dialogue qui est, j'ai pas envie de dire imposé, mais le plus influent à l'heure actuelle, et essayer peut-être de voir sous tous les angles ce problème, quoi.
Bon, dans tous les cas, maintenant, vous savez ce qu'est le effective altruisme. Et quoi d'autre ? Bon, bah, on va finir sur une idée, enfin, une news pas hyper sympathique. La nation de Tuvalu, dont je parle de temps en temps, qui est une petite île, je parle de temps en temps parce que c'est la nation qui nous donne l'extension d'URL .tv, donc elle est assez connue. Ils ont annoncé qu'ils allaient... C'est une petite île vraiment minuscule dans le Pacifique. Ils ont annoncé qu'ils allaient reproduire leur pays, leur île et leur culture dans le métavers. Pourquoi ? Parce que bah, leur île va sans doute, dans les années et les décennies à venir, disparaître, avalée par la montée des eaux. Et donc, ils veulent recréer une version numérique, digitale, de leur culture... pour qu'elles ne soient pas perdues. Parce que, d'après leurs estimations, et j'imagine qu'elles sont justes, maintenant, de toute façon, c'est trop tard pour la sauver. Donc, c'est à la fois, évidemment, poignant comme déclaration et intéressant d'un point de vue tech. Est-ce qu'on peut essayer de sauvegarder des cultures qui disent... Alors là, on parle de réchauffement climatique, il y en a peut-être d'autres applications. On parle de métavers et le terme est... et galvaudé, mais simplement de les préserver numériquement si elles disparaissent, c'est une idée qui est intéressante. Et on parle vraiment de préservation de 3D photoréaliste avec tout ce que ça implique, quoi. Je vous recommande d'aller voir la vidéo, c'est poignant, évidemment. Ils ont fait une déclaration dans c'est l'eau. Enfin, c'est... Voilà.
Ce qui est marrant à noter, c'est que bon, les îles Tuvalu, ils ont le point TV, hein, tu l'as dit, ça représente quand même 10% de leur PIB, je crois. Mm-hmm. Donc, quelque part, une partie de l'argent qu'ils font en revendant leur point TV sur Internet va leur servir à numériser leur propre île pour conserver ça dans le milieu numérique. Ouais. La boucle est bouclée.
Et voilà pour... cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était actif et intéressant. On a même parlé de sujets politiques sans s'engueuler. C'était plutôt sympa. Merci Maxime, merci Christophe d'avoir été avec moi.
Merci beaucoup Patrick.
Avec plaisir.
Avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander où on peut vous retrouver sur Internet. Honneur au plus jeune, Maxime, tu peux nous dire où on peut te retrouver.
Écoutez, on peut me retrouver sur legrandpop.fr, surtout, qui est le site que j'ai cofondé avec des amis. On vient à peine de lancer notre podcast, notre grand podcast. Et sinon, sur Twitter et Instagram, et sur Metaverse. Metaverse, Mastodon, il est fatigué, où évidemment je fuirai puisque c'est du libre. Voilà, c'est magnifique.
Ah, tout s'explique, hein. on sent bien d'où ça vient, tout ça. Et nous retournons désormais vers Christophe, qui est... Alors, tu dis que tu es plus jeune que moi. Je ne te poserai pas la question précise, mais je te propose quand même de nous dire où on peut te retrouver sur Internet.
J'ai la réponse à l'univers, si ça peut...
Ah, d'accord. Ah oui, donc effectivement, tu es un petit peu... Ah,
les bonnes références.
Voilà, tout à fait. Cette référence, à vrai dire, je pense qu'elle te date un petit peu aussi. Parce que je ne suis pas certain que, tu vois, les gens qui sont beaucoup plus jeunes le comprendront, peut-être.
J'écrème comme ça les références. C'est pas mal. Ah, ça me va bien. Je ne peux pas la faire encore pendant très longtemps. Il me reste un mois avant de plus pouvoir la faire à peu près. Donc,
très bien.
J'en profite.
Alors dis-nous où te retrouves-toi.
Vous pouvez me retrouver sur Twitter principalement, @chriskamikas. Voilà. Et de temps en temps sur studiorenegade.fr. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé encore. Mais allez faire un tour quand même. Ils sont sympas aussi.
studiorenegade.fr et chriskamikas sur Twitter. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick. Vous me retrouvez absolument partout. Si vous voulez pratiquer l'altruisme efficace, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour aider le monde à mieux comprendre la tech et ses enjeux avec un angle un petit peu politique. C'est l'un des trucs que je disais dans mon édito sur le politique. C'est pas que je veux faire du politique pour faire du politique, mais c'est que c'est important pour comprendre. S'il y a plein de sujets, si on parle pas des enjeux politiques, ben on va pas comprendre ce qui se passe. Et il y a peu d'émissions, à vrai dire, j'arrive pas à en trouver d'autres, qui envisagent les news tech avec ce contexte. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de vous donner les clés pour comprendre tout ça, parce que la tech, comme on le dit depuis longtemps, la tech influence absolument tout, tout dans notre monde, que ce soit la communication, l'espace, la vente, la politique, tout est influencé par la tech et il faut en avoir les clés. Et moi, je ne vais pas faire uniquement de la review d'iPhone ou de Pixel ou de Echo. Moi, je veux vous donner les clés pour comprendre notre société. Si vous appréciez ce contenu, si vous appréciez ma démarche, eh bien, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech et faire de l'altruisme efficace et soutenir cette émission et surtout son créateur, moi, pour que je puisse continuer à faire ce travail qui est mon vrai travail depuis maintenant 8 ans, grâce à vous. Donc un grand merci à vous tous, patreon.com/rdvtech pour tout ça et notepatrick.com pour tout le reste. À vrai dire, tous les liens sont dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites « Ah !» Kling, Patrick, je n'oublie pas d'aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous tous et à vous toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.